Avant de vous en dire plus sur le thème de notre message de ce matin et de vous proposer une lecture biblique, je vous invite à regarder la courte vidéo qui va apparaître maintenant. Regardez.
Je m'appelle David Kéyan. J'ai grandi dans une famille chrétienne où j'ai pris une certaine habitude de Dieu. J'ai eu un peu du mal à comprendre ce que pouvait être une relation personnelle avec Dieu. Un jour, j'ai découvert un verset dans le psaume 37 au cours d'un camp qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire ». Et ce verset a changé ma perception de Dieu. Et ce jour-là, j'ai vraiment décidé de m'engager à le suivre et à essayer de lui être fidèle. J'ai eu une vie chrétienne avec des hauts et des bas, des moments où ça allait bien et puis d'autres moments où j'étais moins fidèle, un peu happé par certains péchés. J'avais 23 ans, j'étais en train de terminer mes études, je m'engageais un petit peu dans la vie. Et à cette époque-là, j'aimais beaucoup faire de la moto. Et un jour, j'ai eu un accident grave. J'ai été donc transporté rapidement à l'hôpital où, pour me garder en vie, on a dû très rapidement m'amputer de la jambe droite. Et j'ai perdu complètement l'usage de mon bras gauche. Alors ça a été un parcours un petit peu difficile. Les trois premières semaines étaient même vitales. À plusieurs reprises, on a appelé mes parents pour leur dire « Venez lui dire au revoir, il s'en va ». Et puis, de longs mois, même de longues années, j'ai passé 5 ans en centre de rééducation. Je suis passé, et je passe encore par des moments difficiles dans mon quotidien, au niveau pratique. Et puis, je souffre beaucoup, j'ai des douleurs neurologiques. J'avais fait un choix d'engagement, et puis les choses ne se sont pas passées comme je l'imaginais. À 23 ans, on a une vision belle de la vie, on se fait des projets. Et puis voilà. Aujourd'hui, encore des choses difficiles. Et pourtant, Dieu est là. Et il m'a permis d'expérimenter des choses que je n'aurais sûrement pas expérimentées autrement. La volonté de Dieu n'était pas que je souffre. Et quand les choses ne sont pas faciles, et que je prends vraiment le temps de me tenir proche de Dieu, j'arrive à me dire, peu importe. Peu importe parce que lui, il sait, parce que lui, il conduit, parce que lui, il a des plans, il a des projets toujours. Et j'ai confiance en lui. Et je veux vraiment vous encourager, si vous passez par des épreuves, par des difficultés, à vous dire, mais qu'est-ce que je peux apprendre au travers de ça? Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre et qu'est-ce qu'il veut changer chez moi? Il n'y a pas de secret dans la relation avec Dieu. Il n'y a pas de recette miracle, si ce n'est de prendre du temps régulièrement et de donner à celui qu'on appelle Seigneur une vraie place de Seigneur.
C'était le témoignage de David, témoignage fort, cru, témoignage qui nous rappelle ce matin, et c'est le thème de notre culte, eh bien qu'en tant que chrétiens, nous ne sommes pas immunisés, nous ne sommes pas épargnés des souffrances, il n'existe pas de vaccin contre les épreuves, il n'existe pas de médicaments anti-douleur ou anti-souffrance, au niveau spirituel en tout cas. Alors, s'il n'y a pas d'âge pour être éprouvé, il n'y a pas d'âge non plus pour être secouru. Et c'est la pensée que j'aimerais vous laisser ce matin, que nous soyons jeunes ou moins jeunes, nous pouvons tous souffrir, et nous avons parfois des personnes jeunes, voire même très jeunes, qui peuvent être touchées de manière forte par la souffrance. Mais la pensée que le groupe de jeunes et que moi-même nous souhaitons vous laisser ce matin, c'est qu'au travers et dans nos épreuves, Dieu est un refuge, Dieu est un rocher, Dieu est un secours. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et de quelle manière est-ce que ça se manifeste? C'est ce que je vous propose de découvrir un petit peu ce matin au travers de la lecture d'un psaume. Et je lirai avec vous un psaume qui va directement dans le sujet ou dans la thématique de ce que nous avons vu jusqu'à présent, qui est le psaume 91. Alors si vous avez vos Bibles, ouvrez-les. Si c'est sur un iPad ou un smartphone ou une tablette, allumez-le. Si vous n'en avez pas, regardez avec votre voisin ou votre voisine. Le psaume 91 et le thème de mon message sera « Le refuge qui te protège ». Le psaume 91, « Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut, repose en lieu sûr à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son aile et, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre ni terreur la nuit, ni flèche qui vole durant la journée, ni peste rôdant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'Éternel est mon refuge. Si tu as fait du Très-Haut ton abri, aucun mal ne t'atteindra. Nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures, car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère. On termine ainsi, et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai connaître mon salut. Et là, vous pouvez dire tous en cœur, Amen. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec ce qui a été dit, pas forcément avec ce que je vais dire maintenant. Mes chers, est-ce qu'on peut changer les piles, s'il vous plaît? Elles viennent de montrer un signe certain de faiblesse. Alléluia, ça marche. Parce qu'avec moi, il faut des piles qui soient rechargées, vous me connaissez. Alors ce psaume est ce qu'on appelle, ou fait partie de ce qu'on appelle les psaumes de refuge. Ça saute aux yeux, vous trouvez plus de 10 fois des expressions comme par exemple refuge, secours, forteresse. Et vous avez là autant d'images qui nous parlent de Dieu comme non pas un Dieu guerrier, mais un Dieu protecteur. Dans la Bible, souvent Dieu va se présenter comme l'Éternel des armées. Ici, c'est une autre image de Dieu qui nous est présentée et l'image de Dieu qui est véhiculée à travers tout ce psaume. Et c'est très intéressant, surtout que ça a été écrit il y a bien longtemps, c'est l'image d'un Dieu protecteur. Alors imaginez un petit peu la scène. Là, vous avez en réalité des pèlerins qui sont des Israélites, des Juifs, qui se rendent au temple. Vous savez que pour l'Israélite, il y avait plusieurs fois par an ce qu'on appelait des pèlerinages, un temps où ils se rendaient au temple. Et pourquoi est-ce qu'ils se rendaient au temple ? Parce qu'au temple, Dieu était présent, et parce qu'au temple aussi se trouvaient les prêtres, et parce qu'au temple, ils venaient pour apporter leurs offrandes, mais aussi pour être bénis de Dieu et pour venir avec tous les fardeaux qu'ils pouvaient avoir. Et donc, ce sont des pèlerins qui se rendent au temple, et sur le chemin sur lequel, le chemin ou les chemins qu'ils empruntent, c'était pas comme nous aujourd'hui, des chemins bien sécurisés avec la voiture, le chauffage ou la clim ou que sais-je. C'était des voyages qui, pour certains, pouvaient prendre plusieurs heures, voire même parfois plusieurs jours, et des chemins sur lesquels il y avait aussi parfois des bandits qui étaient là et toutes sortes de dangers qui les guettaient. C'est pour cela qu'il est question un petit peu dans ce psaume de danger, comme on l'a lu. Et puis, imaginez aussi ces pèlerins qui se rendent au temple avec leurs problèmes personnels, comme nous le dimanche matin ou en semaine, lorsque nous prenons un temps pour prier ou de nous approcher de Dieu. Nous vivons aussi des problèmes, des conflits, toutes sortes de choses qui sont à l'intérieur de nous. Notez aussi au passage que ces pèlerins se rendaient au temple non pas comme des touristes. Il n'y allait pas la fleur au fusil, pas comme quand on va visiter la cathédrale de Strasbourg, par exemple, où on va dire « Ah ben, les beaux vitraux hein, !» Ils y allaient pour apporter quelque chose à Dieu et surtout aussi pour trouver du secours. Et je reviendrai là-dessus dans un second temps. Quelles sont les épreuves ou quels sont les combats auxquels ces hommes, ces femmes, ces enfants étaient confrontés ? C'est ce que je vous propose de voir dans un premier temps, que nous dit un petit peu le psaume sur les difficultés, les épreuves auxquelles ces hommes et ces femmes étaient confrontés. Il est d'abord question de menaces ici spirituelles. Et il en est même question à 3 reprises dans ce psaume. Cela n'apparaît pas au premier regard, c'est-à-dire à une première lecture. Par contre, quand on regarde un petit peu de plus près et qu'on commence à s'intéresser au texte, on découvre des éléments d'information qui sont très intéressants, de véritables perles. Au verset 3, par exemple, il est question de l'oiseleur. L'oiseleur, pour ceux qui ont fait l'Afrique ou qui s'intéressent un petit peu au sujet, vous savez que l'oiseleur, c'est quelqu'un dont le métier ou une activité, une grande partie de son activité était consacrée à essayer d'attraper des oiseaux. On attrapait généralement des oiseaux soit pour leur plumage, soit pour leur chant. Parfois, c'était aussi pour des besoins très basiques, c'est-à-dire pour manger, pour des sacrifices. Également, dans le monde juif, attraper un oiseau est quelque chose de compliqué. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, ne serait-ce que prendre un oiseau en photo, déjà, ça va être bien difficile parce qu'ils sont sensibles, ils voient les choses. Eh bien, l'oiseleur était spécialisé, il avait passé beaucoup de temps, beaucoup d'heures à étudier les oiseaux, à regarder comment est-ce qu'ils fonctionnaient, et il avait mis au point des pièges très sophistiqués pour les capturer. Derrière cet oiseleur, la tradition juive et la tradition chrétienne aussi de tout temps a discerné pas simplement des difficultés, des problèmes ou des épreuves qui sont le lot de tout être humain, y compris du croyant, mais la tradition chrétienne a discerné derrière cela en réalité celui qui cherche à nuire, celui qui cherche à casser, à détruire, c'est-à-dire le diable et les démons, et qui vont façonner toutes sortes de pièges pour nous faire tomber. Et puis ensuite, le verset 6 de la peste qui rôde dans l'ombre et de l'épidémie qui ravage en plein soleil. Alors, toutes les traductions n'expriment pas la chose de la même manière que je viens de le dire, mais là aussi, sachez que la tradition juive a vu derrière ce passage, et en particulier derrière le terme « fléau » qui est utilisé ici, eh bien, ils ont vu derrière cela, en réalité, le nom d'un démon. Alors, chez nous, ça ne ressort pas dans nos traductions. Mais ça ressort, par exemple, dans deux traductions de l'Ancien Testament. Vous savez que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, mais qu'il y a certaines parties de l'Ancien Testament qui ont été écrites en araméen. L'araméen, c'était la langue que Jésus parlait à l'époque. C'était un petit peu l'alsacien local, si vous voulez, pour trouver un pendant ou un parallèle avec ce que nous vivons, nous autres, aujourd'hui. Et donc, certaines parties de l'Ancien Testament ont été traduites en araméen, quelques psaumes, vous avez aussi quelques prophètes. Et puis, vous avez aussi une autre traduction très connue, c'est ce qu'on appelle la traduction des 70, ou alors la traduction des 70, qui est une traduction grecque de l'Ancien Testament et qui avait été réalisée, je vous l'avais déjà une fois dit, pour des personnes qui, à l'époque, ne comprenaient plus l'hébreu et qui ne comprenaient pas l'araméen et qui étaient intéressés par la foi. Donc, on avait fait pour eux spécialement une traduction. Et quand vous prenez, par exemple, la traduction du Targum, elle traduit ce passage de la manière suivante. « Tu ne craindras pas les démons qui circulent la nuit, ni l'ange de la mort qui vole en plein jour. » Et la Septante, c'est-à-dire la traduction grecque de l'Ancien Testament, que l'apôtre Paul cite souvent dans le Nouveau Testament, souvent quand Paul cite l'Ancien Testament dans le Nouveau, il le cite d'après cette traduction des 70, puisqu'il maîtrisait bien le grec, eh bien cette traduction a la chose suivante, ou plutôt traduit ainsi, « Tu ne craindras ni la mauvaise affaire qui rôde dans l'ombre, ni le mauvais coup, ni le démon de midi. » Là, ça vous dit peut-être quelque chose, cette expression « le démon de midi », qui est une expression bien connue du grand public et qui fait référence généralement à ce qui arrive aux hommes qui s'approchent de la cinquantaine et qui, délaissant les yeux de leur épouse, commencent à regarder des jeunes filles, des femmes plus jeunes. Et c'est de là, justement, que vient cette expression « le démon de midi », donc de cette traduction de la Septante, donc de l'Ancien Testament. Alors, attention à ne pas confondre avec les démons de minuit, ça c'est une chanson du groupe Image, je vois qu'il y en a qui connaissent bien, peut-être même qui ont dansé dessus. Heureusement qu'on ne va pas prendre les paroles au premier degré, ils m'entraînent jusqu'au bout de la nuit. Donc ici, ce ne sont pas les démons de minuit, mais c'est le démon de midi dont il est question. Et puis enfin, au verset 13, il est question, je l'ai lu tout à l'heure, il est question du lionceau, il est question du lion, et selon les traductions aussi, il est question du dragon. Donc vous avez le lionceau, le lion et le dragon, c'est le titre du prochain film de DreamWorks. Je rigole. Pour le juif qui était croyant, ces animaux, en particulier le dragon, eh bien, c'était considéré comme des puissances hostiles à Dieu, comme des démons. Aujourd'hui, on dirait des démons, je ne sais pas si le juif disait littéralement des démons, mais c'était considéré comme des puissances spirituelles hostiles à Dieu et hostiles aussi aux croyants. En disant cela, je ne voudrais pas laisser croire ce matin que toutes les épreuves ou que toutes nos épreuves ou que les épreuves que ces pèlerins vivaient, rencontraient, alors qu'ils se rendent à Jérusalem, venaient de l'ennemi, que ce soit du diable ou alors des démons. Parfois, dans nos milieux évangéliques, vous avez des chrétiens qui parlent souvent du diable et des démons et qui, derrière toutes les difficultés qu'ils rencontrent, ou derrière les épreuves qu'ils côtoient, voient des attaques spirituelles. Et parfois, le diable a bon dos. Heureusement qu'il est là, heureusement qu'il existe. C'est un écueil que nous pouvons rencontrer. Et pour certains, ce sera parfois une manière de fuir aussi leurs responsabilités. Néanmoins, je remarque aussi dans nos églises, et c'est pour cela que j'avais écrit un livre sur le sujet du combat spirituel, que parfois, eh bien, nous ne réalisons pas qu'il y a des épreuves dans nos vies qui peuvent aussi venir de l'ennemi et des démons. Même si nous sommes enfants de Dieu, même si nous sommes convertis, ce n'est pas pour rien que l'apôtre Pierre dira dans 1 Pierre 5,8, et il s'adresse non pas à des personnes qui ne connaissent pas le Christ, mais il s'adresse à des enfants de Dieu, il leur dira « Votre adversaire, le diable, comme un lion, rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. » Mais cher, l'image est forte. Le fait que Pierre, le premier avec qui le Christ va construire l'Église, dit cela, ce n'est pas rien non plus. La Bible ne l'appelle non plus pas pour rien l'ennemi de nos âmes. L'âme dans la Bible, c'est pas simplement la partie immatérielle. Quand nous parlons de l'âme aujourd'hui, nous pensons souvent à cette partie spirituelle ou immatérielle de nous. L'âme dans la Bible, ça représente l'être humain, avec ses pensées, avec ses forces, avec son énergie, avec l'être humain dans sa globalité. Et lorsqu'il dit que c'est l'ennemi de nos âmes, c'est-à-dire c'est l'ennemi de nos personnes, et il peut chercher à nous déstabiliser ou à nous atteindre, y compris dans nos corps. Il y a un mois de cela environ, je reçois un coup de fil d'une dame qui me téléphone du Haut-Rhin, une chère sœur qui a acheté mon livre sur le combat spirituel, et une dame qui a 70 ans, voire même un petit peu plus, et j'étais étonné de son coup de fil. Elle me téléphone, elle me dit « Écoutez, pasteur, je faisais partie d'une église, toute ma vie j'ai fait partie d'une église évangélique, et on ne parlait pas souvent du diable, et on ne m'a jamais expliqué comment est-ce que je pouvais avoir la victoire dans ma vie, et on ne m'a jamais parlé que certaines épreuves ou certains combats que nous pouvons vivre peuvent être le fait de l'ennemi et pas simplement des circonstances de la vie ou notre propre fait à nous. » Et cette femme m'a raconté que lorsqu'elle était enfant, à plusieurs reprises, elle avait été troublée par une présence mauvaise qui s'était manifestée à elle dans sa chambre et qui était une réalité pour elle, et qu'ensuite, plusieurs années ou pendant plusieurs décennies, elle avait été complètement libre de cela. Et ces derniers mois, cette présence est de nouveau venue se manifester à elle et elle était profondément troublée pendant son sommeil et souvent lorsqu'elle était seule chez elle à la maison. Et en lisant le livre, elle a réalisé que ce qu'elle avait vécu et ce qu'elle vivait de nouveau après bien des années d'accalmie était en réalité une attaque de l'ennemi. Et je lui ai dit « Écoutez, ma chère sœur, vous avez l'autorité en tant qu'enfant de Dieu de pouvoir résister au diable et au malin. Et vous n'avez pas à accepter ce genre de manifestation dans votre vie. Le diable cherche à vous attaquer, mais vous pouvez refuser cela au nom de Jésus. » Elle a décidé de le faire. J'ai simplement prié pour elle. Et quelques temps après, il y a 15 jours de cela, je crois, elle me rappelle et elle me dit « Écoutez, c'est terminé. Je suis libre et je ne suis plus embêté. » Et combien ça m'a fait plaisir que cette maman de 70 ans, hein, cette grand-mère, découvre et vive cette expérience à son âge. Donc le psaume 91 nous parle dans un premier temps de menaces spirituelles qui nous guettent, mais il nous parle aussi d'autres menaces qui guettaient le pèlerin et qui peuvent également nous atteindre. Au verset 3, par exemple, il est question de la peste. Derrière la peste, qui, comme vous le savez, pendant des millénaires, a causé la perte de dizaines, voire même de centaines de millions de personnes, eh bien, il y a derrière cette peste, qui aujourd'hui n'existe plus, Dieu merci, ou en tout cas, il y a des traitements qui sont là, derrière cela, nous pouvons discerner la maladie. La maladie qui parfois se cache, et nous avons aujourd'hui toutes sortes de maladies, qui pour certaines sont des maladies difficiles à guérir, que ce soit le cancer, des maladies auto-immunes, et j'en passe, qui vont détruire la vie d'hommes et de femmes, de croyants fidèles aussi. Maladies, auxquelles notre médecine actuelle, ou face à laquelle notre médecine aujourd'hui est impuissante, nous pouvons aider, nous pouvons soulager. Mais combien d'hommes et de femmes, et dans notre assemblée y compris aussi, souffrent et sont là face à cela, parfois totalement impuissants. Mais voyez-vous, derrière le mot « peste » dont il est question ici au verset 3, se cache aussi un autre mal. Un mal qui n'apparaît pas au premier abord, comme tout à l'heure pour le mal spirituel dont je parlais, toujours dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans la traduction des Septante, eh bien la Vulgate traduit aussi, ce qui est aussi une autre traduction, cette fois-ci en latin, de l'Ancien Testament, traduit ce passage ou ce verset de la manière suivante, par le fléau de la parole. Elle parle du fléau de la parole. Alors pourquoi parler du fléau de la parole ? Eh bien, en hébreu, peste se dit déber. Et certains ont lu ici non pas déber, mais ils ont lu dabar. En hébreu, vous savez qu'il y a à l'origine que les consonnes qui sont là, et que par la suite, pour garder la traduction, le sens du texte, on a rajouté ce qu'on appelle en dessous les voyelles. Mais quand on regarde déber ou dabar, c'est exactement les mêmes consonnes qui sont là. Et certains ont lu alors non pas peste, mais ils ont pensé qu'il fallait lire ici parole. Si maintenant on prend l'ensemble du psaume, on se rend compte que le mot peste convient mieux à ce qui nous est dit. Néanmoins, le fait de dire, comme l'a retenu par exemple la traduction des Septante, donc de l'Ancien Testament, de lire ici ou de voir ici parole, n'est pas faux, puisque nous savons et nous le voyons aussi dans le reste de l'Écriture, que la parole peut être soit une bénédiction, une force, une puissance qui va aider, relever, encourager, bénir, faire du bien. Mais la parole peut être aussi un véritable fléau, une malédiction, qui va causer bien du tort dans la vie de celles et ceux qui vont le recevoir. Et certainement que sur ce chemin de pèlerinage, avec ces hommes et ces femmes qui se rendaient à Jérusalem, il y avait peut-être des personnes qui avaient été victimes de paroles blessantes ou malencontreuses. Peut-être même que certains avaient été maudits, comme cela se faisait beaucoup en ce temps-là, parce qu'ils avaient des ennemis. Et donc, ils venaient avec tous ces fléaux, toutes ces paroles mauvaises, mais aussi les souffrances personnelles qui étaient là, qui étaient les leurs. Et puis, au verset 10, il est question du malheur, de catastrophes qui, soudainement, peuvent s'abattre sur des enfants de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, en tant que chrétien, nous ne sommes pas immunisés contre cela. Et même si nous rendons un bon témoignage, même si nous sommes fidèles, même si nous donnons notre dîme, même si nous prions, nous lisons notre Bible et nous cherchons à rendre un bon témoignage et à nous comporter d'une manière qui honore Dieu, soudainement, nous pouvons être frappés par le malheur. Sans explication, sans raison logique, rationnelle. Et on ne sait pas pourquoi tout d'un coup ça nous tombe dessus. Et tous nos pourquoi, généralement, Dieu n'y répond pas. Et donc, c'est avec toutes ces souffrances, avec toutes ces épreuves spirituelles, mais aussi très concrètes, que ces hommes et ces femmes se rendaient à Jérusalem. Mais que ce soit des attaques spirituelles, que ce soit le malheur qui soudainement fond, des maladies, des paroles malencontreuses qui ont été dites, la Bible nous dit, et ce psaume nous dit aussi haut et fort, que Dieu assure dans l'épreuve, le moyen d'en sortir. C'est 1 Corinthiens 10, verset 13. Dans l'épreuve ou dans la tentation qui, généralement, sont plus ou moins les mêmes mots. Alors, de quelle manière la protection de Dieu se manifeste-t-elle ? J'aimerais terminer avec cela. Il y a plusieurs images ici qui sont utilisées. Personnellement, je vais en retenir deux. Au verset 4, nous l'avons lu tout à l'heure, il est question du plumage. C'est étonnant. Ça change du Dieu guerrier. Très différent. Le plumage qui fait référence, non pas à une fable de La Fontaine, mais qui fait référence ici à une poule. Une poule qui est une des images qui est utilisée à quelques reprises dans l'Ancien Testament pour parler de Dieu. Étonnant que déjà, il y a 3000 ans de cela, Dieu se présente à son peuple et se présente un petit peu comme une poule, c'est-à-dire qu'il y a ici un côté féminin qui est évoqué. La poule, eh bien, c'est celle qui va prendre soin de ses poussins. Et au travers de cette image qui est utilisée, Dieu est en train de dire à son peuple, eh bien, comme une mère prend soin de ses enfants, moi je vais aussi et je prends également soin de vous. Mais il y a aussi autre chose derrière cette image dont il est question au verset 4 fait certainement allusion, comme le remarquent quelques commentateurs, aux chérubins. Aux chérubins qui se trouvaient, comme vous le savez, au-dessus de l'Arche de l'Alliance. Donc lorsqu'ils venaient au temple, il y avait le temple, et dans le temple, il y avait le lieu très saint, où on ne pouvait aller qu'une seule fois dans l'année, et encore le seul qui pouvait y aller, c'était le grand prêtre. Et dans ce lieu très saint, il y avait peu de choses, mais il y avait entre autres ce qu'on appelle l'Arche de l'Alliance, le coffret dans lequel il y avait en particulier les tables de la loi que Dieu avait données à Moïse. Et sur ce coffret, il y avait fondu en or massif ce qu'on appelait eh bien, le propitiatoire. C'était l'endroit où, une fois par an, le grand prêtre venait avec du sang d'un taureau, je crois, et il venait mettre ce sang au-dessus pour faire l'expiation, c'est-à-dire pour que les péchés du peuple soient pardonnés. Et sur ce propitiatoire, fondu toujours dans la masse, il y avait deux chérubins, chacun regardé d'un côté, et les ailes de ces chérubins, qui faisaient plus d'un mètre de large, se touchaient. Et Dieu dira à Moïse, c'est au-dessus de ce propitiatoire, c'est là que je te rencontrerai. Donc c'est au-dessus de cet endroit qu'il y avait la gloire de Dieu, qu'il y avait la présence de Dieu. Et le pèlerin qui venait à Jérusalem, il venait peut-être avec peut-être un petit peu de superstition, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y venait avec tout son cœur et il savait qu'à partir du moment où il allait mettre son pied dans le temple, même dans le parvis qui était avant le temple, il savait que Dieu était présent à cet endroit-là. Et il savait qu'à cet endroit-là, il y avait la gloire, il y avait la présence, il y avait l'onction de Dieu qui était là. Et à partir de ce moment-là, il était comme couvert par ses ailes de ses chérubins et il était protégé. Et l'image est belle. Et cette image d'elle se poursuit au verset 11 et 12. Versets 11 et 12 qui seront cités dans le Nouveau Testament par Satan, où il nous est dit, « Il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur le main de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Eh bien, il y a là aussi une manière de Dieu de protéger son peuple. Il y a non seulement le fait que Dieu est comme une maman poule qui prend soin de ses enfants, il y a non seulement le fait que dans la présence de Dieu, et nous sommes le temple du Saint-Esprit, et où que nous soyons, nous pouvons expérimenter et vivre la présence de Dieu et par conséquent être protégés. Mais pour nous protéger, Dieu utilise et envoie aussi parfois ses anges. Comment les choses se passent-elles ? Quand est-ce que c'est ? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une réalité spirituelle dont toute la Bible nous parle. Et puis au verset 4, il y a encore une seconde image qui est utilisée pour parler de la protection, et ce sera celle du bouclier, ou alors plutôt, si vous voulez, du dieu cuirasse. Ça, c'est une image, mes chers, qui devait certainement parler aux guerriers, parce que il y a des guerriers qui se rendaient au temple, j'imagine, et puis il y avait aussi des hommes, donc le dieu cuirasse ou le dieu bouclier, c'est peut-être une image qui était utilisée pour parler davantage aux hommes. Et puis peut-être pour les femmes, c'est mon interprétation, c'était le dieu poule, hein, ou alors le plumage qui était là pour protéger. Même si nous autres aussi, nous pouvons nous sentir en tant qu'hommes interpellés par cette image. C'est une interprétation très personnelle. Remarquez quelque chose, ce bouclier, ce n'est pas nous qui avons à le tenir. Dans le Nouveau Testament, il est parlé du bouclier de la foi que nous devons tenir. Mais ici, quand on regarde dans le texte, en réalité, ce sont que des choses que Dieu fait pour ses enfants. C'est Dieu qui tient le bouclier, c'est-à-dire il y a parfois les flèches enflammées de l'ennemi qui peuvent venir. Il y a les flèches des autres, il y a les circonstances de la vie. Il y a plein d'autres choses qui sont en train de se passer, hein, et des flèches avec lesquelles on va être piqué. Eh bien, le bouclier, c'est Dieu qui le met devant nous. Et c'est Dieu qui nous protège et qui va brandir sur nous et pour nous ce bouclier. Le psaume 91 nous montre, frères et sœurs, et j'arrive tout doucement à la fin, que la protection de Dieu est réelle. La protection de Dieu n'est pas un concept intellectuel. Ce n'est pas un sentiment. Pour le juif, la foi en Dieu et le fait qu'il lise et que le prêtre, lorsqu'il va au temple, lui dise que Dieu est un refuge, pour lui, ce n'est pas un concept intellectuel. Nous, en Occident, on intellectualise beaucoup les choses. Mais le juif, lui, n'intellectualisera pas les choses, en tout cas pas dans un premier temps. Il a besoin de savoir que Dieu, c'est concret, c'est vrai. C'est un petit peu comme pour l'Africain. Vous savez, lorsque je vais en Afrique, plus d'une fois, j'ai été interpellé et remis en cause dans ma foi. Lorsque des frères et des sœurs en Afrique vivent des épreuves, que ce soit des difficultés, à quelque niveau que ce soit, alors ils vont se mettre à prier, à prier. Et parfois, en tant qu'occidentaux, ça nous surprend de voir le temps qu'ils passent à prier. Et souvent, ils m'ont dit, mais tu sais, on a un Dieu. Et si tu as un Dieu, ça doit servir à quelque chose. Alors, c'est dit peut-être de manière abrupte, mais moi, j'ai trouvé ça excellent. Parce que nous, avoir un Dieu, souvent, ça va être un concept intellectuel, hein, où ça reste dans notre tête. Mais l'Africain, il va te dire, non, si tu as un Dieu, eh bien, il faut qu'il serve à quelque chose. Il sert à quoi ton Dieu? Tu as un problème, tu es dans la souffrance, tu as une difficulté par rapport à ceci ou à cela, eh bien tu vas prier et ton Dieu est là et ton Dieu va faire quelque chose pour toi. Et ça, c'est un petit peu la pensée qui était pour le juif. Parce que s'ils allaient au temple, c'était pas simplement pour qu'on leur dise des choses, mais c'était pour qu'ils trouvent réellement un secours. Et on le voit, le secours de Dieu est réel. Je relis les versets 5 à 8. « Tu n'as plus à craindre. » Ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée. Il n'est pas dit qu'il n'y a plus de flèches qui volent, n'est-ce pas? Ni peste rôdant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux. Et le Seigneur dit peut-être ce matin à quelqu'un, ouvre seulement les yeux. C'est-à-dire, regarde ce que je vais faire. Regarde ce que je vais faire pour toi. Tu n'as rien à faire. Tu ouvres simplement les yeux et c'est moi qui vais faire quelque chose pour toi. Et je le fais pourquoi? Parce que je suis bon et parce que Dieu est bon, tout simplement. Ça ne veut pas dire, bien sûr, et je mets une petite parenthèse, ou plutôt je nuance mon propos dans le sens, pour dire que ça ne veut pas dire qu'il ne peut rien nous arriver. La protection de Dieu est réelle et efficace, mais nous ne sommes pas immunisés contre les épreuves. Le diable est là, les circonstances de la vie sont là. Et la Bible nous dit aussi que le malheur atteint souvent le juste. Et souvent, eh bien ça veut dire souvent, merci. C'est Alfred Kuhn qui dit dans un de ses commentaires, je ne sais plus sur quel passage, que tant que nous sommes, ou plutôt tant que Dieu a une œuvre à nous confier ici-bas, nous sommes immortels. Ça ne veut pas dire que là aussi nous devons faire n'importe quoi. Je pense au pasteur Émile Adoté, qui est le président des Assemblées de Dieu au Bénin, qui est un de mes amis, qui un jour m'avait invité pour un temps d'enseignement pour 400 de leurs pasteurs. Et quand nous avions eu 3 jours d'enseignement, nous nous sommes quittés. Et il dit à ses pasteurs, je ne sais pas si je vous l'avais déjà raconté, mais je vous le redis, il leur dit, écoutez, vous allez prendre la voiture, et sur la route, si vous roulez à 90, Jésus est avec vous. Vous roulez à 110 ? Pas de problème, Jésus, il est toujours là. Par contre, si tu roules à 130, Jésus, il sort. Hein? Donc, au travers de cela, ce n'est pas parce que Dieu a quelque chose pour nous et prévu quelque chose pour chacun d'entre nous que nous devons agir n'importe comment et que nous ne pouvons pas être touchés. Et la vie nous montre aussi parfois, comme le témoignage de David, et c'est pour cela que je voulais montrer tout à l'heure en introduction, que nous pouvons nous retrouver dans des épreuves qui ne terminent pas. Des épreuves qui peuvent durer longtemps. et où Dieu n'accorde apparemment pas sa délivrance. La maladie reste là, la souffrance reste là, les problèmes, ce qui cause, ce qui est une grande épreuve dans sa vie, c'est quelque chose qui reste présent. Mais même si c'est le cas, et on ne sait pas forcément pourquoi c'est le cas et pourquoi ça reste, cela ne change absolument rien à la bénédiction et à la protection de Dieu qui est une réalité. Parce que le salut est quelque chose de complet. Le salut concerne pas simplement notre temps sur terre, mais le salut concerne aussi l'après-vie. La mort est une libération. La mort est une bénédiction pour le chrétien. Bien sûr, personne ne veut mourir, mais c'est une délivrance parce qu'on rentre pour toujours dans la présence de notre Dieu. Donc que nous soyons délivrés comme nous le souhaitons sur terre ou alors que nous ne soyons pas délivrés comme nous aurions aimé, la protection et la bénédiction de Dieu restent exactement la même. Et dans tous les cas, nous sommes gagnants. Je termine avec une dernière pensée. La protection de Dieu est pour celui ou celle qui s'approche du très haut, littéralement du sublime. Verset 1, « Celui qui s'abrite, nous est-il dit, » et versets 14 et 15, « Parce que l'action de Dieu, ce n'est pas de venir à l'église, ce n'est pas de lire tous les jours sa Bible, ce n'est pas de prier pendant 2 heures ou 3 heures tous les jours. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. La seule chose pour bénéficier de la protection de Dieu, est en train de dire le psalmiste, c'est de s'approcher de Dieu. » Et ça, c'est quelque chose que chacun d'entre nous, que tout être humain, qu'il soit croyant ou non-croyant, peut faire. S'approcher de Dieu et lui dire, comme ce verset qui est le verset 9 et qui est le cœur de ce psaume, « Éternel, tu es mon refuge. » Mon refuge, ce n'est pas le médecin. Mon refuge, ce ne sont pas les spécialistes. Mon refuge, frères et sœurs, ce n'est pas mon banquier. Je crois que c'est bon de nous rappeler ces choses-là, n'est-ce pas ? Mon refuge, ce n'est pas l'horoscope ou la voyante du coin ou le magnétiseur du coin que je vais voir parce que j'ai un bobo ou parce que j'aimerais connaître mon avenir et que je suis troublé. Mon refuge, ce ne sont pas les hommes politiques. Surtout pas. Mon refuge, ce n'est pas mon employeur. Mon refuge, ce n'est pas un CDI ou un CDD ou un je ne sais pas quoi. Mon refuge, ce n'est pas mon lycée, ce n'est pas mon plan de carrière, ce ne sont pas mes diplômes. Mon refuge, ce ne sont pas les structures, mon refuge, ce ne sont pas des êtres humains. Mon refuge, c'est l'Éternel, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et c'est la pensée que ce psaume 91 nous laisse. L'Éternel est mon refuge. Et c'est certainement le prêtre qui accueillait ces pèlerins lorsqu'ils arrivaient, qui leur disait, « Eh bien maintenant, dis, l'Éternel est mon refuge. Ce n'est pas moi le prêtre ton refuge. Ce ne sont pas les structures, ce ne sont pas tout ce que j'ai pu citer qui est ton refuge. Celui qui est ton refuge et qui prendra soin de toi et qui te protégera, c'est l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. » Je vous invite à vous lever et nous allons terminer par une prière courte. Mais avant de terminer par une prière courte, je vous invite simplement dans votre cœur à faire vôtre cette prière et à dire pour vous-même, si vous pensez que vous devez le faire, simplement dire ce verset 9, dire « L'Éternel est mon refuge ». Et avant de dire « L'Éternel est mon refuge », vous lui dites d'abord ce qui est une épreuve pour vous. Peut-être que c'est une souffrance, peut-être que c'est une maladie, peut-être que c'est une attaque de l'ennemi. Vous lui dites, Seigneur, ça c'est mon épreuve, ça c'est mon écharde. Eh bien, je viens devant toi avec elle et je te dis, tu es mon refuge. Faites-le dans le fond de votre cœur avec foi. Tu es un abri sûr, tu es notre refuge, comme nous l'avons dit notre Dieu ce matin. Tu as entendu ces prières qui sont montées et qui montent vers toi. Nous voulons te dire tous ensemble, Seigneur, que nous comptons non pas sur les structures, non pas sur les hommes, non pas sur les médecins et autres, même si nous sommes contents de les avoir et nous te remercions pour cela. Nous te remercions aussi pour nos banquiers. Mais Seigneur, c'est d'abord et avant tout sur toi et en toi que nous voulons placer notre confiance, parce que toi, tu ne changes pas et toi, tu seras toujours le même. Amen. Ça y est, à prendre place.